suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Merci de nous choisir. Nous sommes au premier lundi de ce mois de novembre. C'est le 4 novembre, bien sûr, 2024. Il sont 11h sur votre radio et vous comprenez sans doute que c'est l'émission Club de la Presse qui démarre. Ainsi, nous sommes au premier numéro pour le compte de cette semaine. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Vitor Betomiga est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous capter aussi via nos médias, nos radios en ligne, radio partenaires bien sûr en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat là, sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio. Nous sommes au lundi. L'équipe de lundi est déjà en place. Uriel Nyang, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les Togolais, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs des canaux FM de par le monde. Bonne semaine à tous ceux qui aiment le travail et beaucoup de courage. Prise de conscience à tous ceux qui n'ont pas encore un esprit que seul le travail libère et que nos petits frères qui ont repris le chemin de classe se concentrent davantage pour...
Après le congé de détente.
Après le congé de détente qui n'est plus une étrangère pour les Togolais. On s'est déjà habitué puisque ça fait nous sommes dans la deuxième année d'expérience et finalement on s'est déjà habitué. On trouve que c'est une bonne chose. Au départ, les gens, nous tous on pensait que c'était du temps perdu, mais aujourd'hui on constate que vraiment c'était important de leur accorder cette semaine-là. L'essentiel est que les parents mettent la semaine en valeur, c'est tout.
Jacques Dakouti, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM, bonjour à mon ami personnel et bonjour également à la diaspora qui nous écoute actuellement. Juste leur dire que mon ami personnel est en blanc aujourd'hui. J'espère que ça doit être une journée spéciale pour lui.
Tout à fait. Il y a une information spéciale même d'ailleurs sur ton ami personnel.
Ah, d'accord.
Peut-être que tu n'as pas encore, mais je dévoilerai l'information tout de suite.
D'accord. Je voulais, Pascal, si tu le permets, inviter une fois encore nos autorités au niveau du passage à niveau des trains, surtout au niveau de Clicamé, au rond-point qui va vers ancien Togo-Com. Et comment dire, l'autre qui va vers, disons, je crois que c'est Didjolé, non loin de la radio Pyramide là-bas. Il y a un seul problème au niveau de ce passage là-bas, surtout au niveau des rails, Pascal. Je voulais sincèrement inviter les trois mers, parce qu'il y a une partie, parce qu'on appelle là-bas souvent les trois continents.
Tout à fait, c'est la jonction de, voilà, pratiquement trois communes.
Trois communes. Une commune gérée par M. Jean-Pierre Fabre, l'autre commune gérée par Kamal Adjaï.
Golfe 3.
Et l'autre commune gérée par le député Aboka Kossi.
C'est Golfe 5.
Il est député.
Oui, oui. Non, le maire.
Le maire, je voulais dire. Voilà.
Mais il fut député.
Oui.
Donc, je voulais inviter effectivement ces trois maires-là à se concentrer pour essayer d'arranger ce niveau. Parce qu'il n'y a pas ce jour, Pascal, qu'il n'y a pas d'accident à ce niveau. Ce matin, je suis passé vers ce niveau. Il y avait encore une femme et son enfant couchés encore là-bas. Parce que j'ai l'impression que les gens ne maîtrisent pas souvent cette voie à cause de ces trous-là. J'invite une fois encore les trois maires à se concerter. Je ne sais pas si c'est le ministère du Transport ou bien le ministère des Travaux Publics qui va prendre soin de ce passage à niveau. On avait entre-temps tambouriné au niveau de Atikoumé, ça a été fait. Il faudrait également qu'ils pensent également à refaire ce niveau-là pour éviter ce genre d'accident que nous assistons. C'était une femme qui voulait déposer sa fille à l'école ce matin, mais malheureusement, la petite a eu la jambe fracassée ce matin parce que quand l'enfant est tombé, il y avait un véhicule qui venait. Le véhicule n'a pas su et le véhicule a marché sur le pied de l'enfant ce matin. Je crois que c'est, l'image n'était pas du tout bonne à voir. Je crois qu'il faudrait que ces trois mères là se concertent pour arranger ce niveau-là. Parce que les feux tricolores, depuis un certain temps, depuis 2 ans, les feux tricolores ne marchent plus. Mais au moins, il faudrait qu'au niveau de ces rails-là, qu'on puisse quand même l'arranger.
Et c'est très important. Je pense que le message est passé. Gosson Ketomania, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Alors, je ne sais pas comment ce 50 ans rentre dans la famille des grands pays. Je veux bien parler alors de grand-père.
Ah bon?
Ben oui. Tu sais, il y a l'expression qui dit que la vie ne vaut rien, mais que rien ne vaut la vie. Surtout quand c'est ta grande-fille qui, à un certain âge, à l'âge requis, donne vie à un être humain, qui plus est, en très bonne santé.
Alors, je sens vraiment cette joie, cette émotion, parce que c'est vrai, pour la première personne chez qui je l'ai senti, c'est chez Sasgaou, quand justement il est rentré dans la famille, c'était vraiment une grande joie, et justement, j'ai eu même d'ailleurs l'impression d'avoir aussi rentré dans cette famille.
Mais en fait, c'est ainsi, c'est comme quand un jeune s'adresse à un plus âgé.
Tout à fait.
Le plus âgé, pas âgé souvent, moi aussi j'emprunte cette expression, je lui dis que ce que tu es, je l'ai été. Mais rien ne garantit que ce que je suis, toi tu auras la chance de l'être. En ce sens, il faudrait d'abord que tu sois en vie, d'avoir la chance d'avoir mon âge. Donc pour ce qui est de cet événement qui me rend si gai, c'est à chacun d'y goûter. C'est vrai que la vie, ça pullule. Ça n'a plus d'importance sous certains cieux. Les vies tombent comme de petits pains. On ne s'en soucie plus. Mais quand au sein d'une famille, il y a un nouvel être qui arrive en bonne santé, il faut le vivre pour le sentir. Même avec rien en poche, c'est une joie qui est peu descriptible.
Et donc, c'est une joie vraiment peu descriptible. Ça se comprend l'émotion.
Ben oui.
Et justement, mais lui il n'est pas encore grand-père.
J'ai beaucoup aimé la joie exprimée par Godson ce matin. Il a laissé de côté son manteau de président des
JPTE.
Et il exprime vraiment la joie que ça donne envie de devenir, comme tu l'as dit, grand-père. Mais nous sommes quand même loin de là. Je félicite cet enfant qui partage désormais le même mois de naissance que moi. Je lui dis bienvenue. Sauf que ce soit toi, que ce soit Sas, personne n'a eu l'audace de partager la célébration du mariage de sa fille avant de nous parler de son accouchement. Ils ont tout caché. Et c'est quand ils sont devenus grand-père qu'ils viennent nous en parler. Il fallait nous parler des fiançailles, nous parler du mariage, nous parler de tout avant de nous parler de ces enfants qui sont arrivés. De toutes les façons, nous les accueillons à bras ouverts et nous leur donnons la bénédiction la plus grande possible.
Et c'est une grâce, je l'avoue.
Non, je ne me suis pas trompé, Pascal.
Oui. En disant que non, il est en blanc.
Il est en blanc.
Tout
donc,
à fait.
Félicitations à mon ami personnel.
Merci.
Félicitations
et quand
également.
Vous dites qu'il est en blanc, c'est de la tête et jusqu'aux pieds. Hein.
Non.
Son gendre serait de la Dina, certainement.
Alors, lui n'est pas encore grand-père, mais il est père quand même. Mm. C'est le fils de Kouvé. Bonjour Didier Assogba.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices. Aux auditrices d'abord et puis aux auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes aînés. Et mes aînés, donc ceux qui deviennent déjà grand-papa et ceux qui se sont également rasés proprement la tête. Donc c'est vraiment des aînés, et donc je les honore, je célèbre l'événement de notre président. Donc celui-là n'a pas encore annoncé à l'association, mais là on vient de l'apprendre, donc on fait la fête.
D'accord, c'est l'essentiel. On fait la fête, je ne sais pas quand est-ce que la fête aura lieu, grand-père.
Vous serez tenu informé.
Ok, merci beaucoup, chers confrères. Nous amorçons ce débat, enfin notre débat, dans cette atmosphère aussi qui fait du bien dans tout le studio ici. Alors, nous commençons même d'ailleurs ce débat avec cette formation qui a eu lieu la semaine dernière, en fin de semaine dernière, bien sûr, et c'est sur l'extrémisme violent et paix durable au Togo. Et Nouvelle Opinion est revenue sur le sujet ce matin. Nouvelle Opinion écrit « Extrémisme violent et paix durable au Togo, les professionnels alors des médias outillés ». Gosson, vous avez eu le temps nécessaire alors de participer à ces deux jours de formation ou de rencontre. C'était un atelier qui a eu lieu à Nero, dans les lacs. Concrètement, il s'est agi de quoi?
Personnellement, je ne dirais pas qu'il s'est agi d'outillage des professionnels des médias, mais d'échanges, d'explications pour que chacun cerne mieux les enjeux, les risques et les dangers surtout. En ce sens que certains ont pu comprendre qu'une chose est d'être à des centaines de kilomètres de la zone à risque et d'en parler, mais une autre est de vivre dans cette zone et de vivre de quoi il s'agit. Les expressions à utiliser vont obligatoirement différer. Et c'est vrai, dans cette atmosphère, moi j'ai pu effectuer une mission au Grand Nord, et là-bas j'ai découvert que ce n'est pas de la blague, Pascal. Loin de moi l'idée de terroriser ou de faire peur, mais il serait temps que chacun à son niveau, peu importe sa tendance politique, comprenne l'urgence de l'heure et au moins que sur ce sujet, qu'on fasse bloc et citoyens et nos frères qui assurent la défense nationale, pour qu'ensemble et par la grâce divine, on arrive à cerner ce phénomène. Autrement, personne ne sait si après la savane, ça va atteindre les autres régions du pays. Et ce n'est pas impossible. Pour la simple raison que dans le passé, j'avais eu à échanger avec un général sur la question, et là j'ai pu comprendre que nous devons même avoir la victoire, nous devons faire profil bas même en cas de victoire, en ce sens que ces groupes armés non étatiques sont capables de tout. Et au cours de cet atelier, on a pu réaliser que en fait chercher à dire le nombre de soldats tombés ou de victimes déplacées, c'est comme faire de l'apologie, faire de la publicité pour ces groupes armés non étatiques. Donc, il nous revient à chacun d'accompagner les autorités dans leur lutte. Pas de les suivre bêtement, mais de savoir quoi traiter comme sujet afin que ce ne soit pas perçu comme de la publicité ou alors une porte ouverte ou une voie pour l'expression de ces groupes armés non étatiques. Ce fut enrichissant et je n'ai pas regretté.
D'accord, vous ne l'avez pas regretté. C'est vrai que à travers cette formation, enfin, nous n'allons pas parler de cette formation, parlons d'atelier ou d'échange et de partage. C'est que on veut aujourd'hui mettre à contribution les médias dans cette lutte qui, en quelque sorte, nous concerne tous.
Pascal, qu'est-ce que tu veux que je dise par rapport au sujet? Ce que j'attendais de Godson, peut-être, c'était de nous donner quelques précisions avant de rentrer dans le contenu de ce qu'ils ont reçu comme information, renseignement, sensibilisation, formation. Parce que moi, je ne sais pas, je n'ai été informé d'aucun atelier, je ne sais pas qui l'a organisé à l'endroit des médias, combien de médias ont participé, c'était où. Je ne suis informé de rien. Vous savez, ce genre de formation, quel que soit l'organisateur, je pense que des fois, c'est des faux pas. C'est des faux pas. Vous voyez un sujet d'une telle envergure doit être pris au sérieux. C'est pas un sujet sur lequel il faut s'amuser ou bien, bon, comme on est à la fin de l'année, il faut épuiser les budgets, il faut faire ceci ou cela. Non, c'est pas cela. L'organisateur vraiment devrait prendre en compte. La preuve, c'est que c'est ici que moi j'apprends qu'il y a eu un truc pareil. Il devrait prendre en compte l'ensemble des médias, sans exception. Si c'est deux jours, ils le font puisque c'est la vie du pays. C'est la vie de la nation.
Il y a des médias qui ont été mis à côté.
Je ne sais pas si tu y étais, je ne sais pas si les autres... Moi, je n'y étais pas.
D'accord.
Je n'y étais pas. Il y en a beaucoup qui n'y étaient pas, certainement. Et puis, vous voyez, ça a été organisé en écoutant Godson. Ça veut dire que ce n'était pas Lomé, ce n'était pas Adapaon. Ce n'était pas dans une zone où les journalistes vont percevoir la réalité des choses. Il dit, par exemple, quand il s'était déplacé sur le nord, il a vu que vraiment tout ce qui se passe, c'est pas de la blague. Vous voyez, ce n'est pas des événements pour lesquels il faut se coopter dans un hôtel et aller donner des informations, faire des recadrages. C'est là, des fois, le faux pas de l'autorité. Ce sont des sujets pour lesquels il faut s'adresser à la HAC, il faut s'adresser à l'OTM, il faut s'adresser aux organisations professionnelles des médias pour voir dans quelle mesure le travail pouvait être pris sur un sens plus sérieux que cela. D'accord. Je suis même plus sérieux dans ce que je suis en train de dire. Pour des sujets pareils, c'est l'intérêt de la nation. Donc, il faut l'organiser avec plus de sérieux. Avec plus de sérieux, hein, signifie qu'il faut prendre en compte tout le monde. Même, on pouvait ne pas prendre en compte mon organe, mais prendre en compte la majorité des organes pour qu'ils puissent faire vraiment le travail. Il faut laisser de côté l'épuisement des budgets, il faut laisser de côté les intérêts partisans, parce que c'est la vie de la nation.
D'accord. Jacques, moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, dans cette lutte, quel doit être alors le rôle des médias?
Bon, vous savez, j'ai vu une image sur la télévision du Bénin la fois passée, où les députés sont allés, je crois, c'est à Pengari, pour vivre les réalités des soldats, c'est-à-dire que ce que les soldats là subissent là-bas. Et c'est les députés de l'opposition du parti au pouvoir et tout. Ils sont allés là-bas. Ils ont porté les gilets, les casques, et puis bon, on les a fait rentrer dans ce parc-là pour voir les réalités, ce qui se passe au sein de ce parc, comment les djihadistes là attaquent tout le temps le Bénin et comment la riposte s'organise également à ce niveau. C'est-à-dire que les députés veulent voir et les députés veulent toucher du doigt ce qui se passe. Et vous allez voir, lorsque par exemple un collectif budgétaire va venir vers l'Assemblée nationale pour demander à ce que les députés puissent donner l'aval pour qu'on puisse peut-être augmenter la cagnotte pour le ministère de la Défense pour l'achat des armes, les députés ne vont pas s'y opposer parce qu'ils ont vécu, ils ont vu, hein, ils ont touché du doigt la réalité de ce qui se passe. Il faudrait également que l'actuel président de l'Assemblée nationale, M. Kodjo Adeje, organise cette même sortie pour les députés de notre Assemblée. Bon, il est vrai qu'entre-temps, il était question, quand ils étaient à Accra, les rumeurs avaient circulé qu'ils devaient également aller là-bas pour toucher du doigt les réalités de ce qui se passe. Je ne sais pas si cela a été fait. Ce que Uriel disait tout à l'heure, je crois que c'est de ça au fait que Uriel voulait toucher. C'est-à-dire que aujourd'hui, organiser un séminaire à l'intention par les dames des journalistes, il faudrait qu'on le fasse par exemple. Peut-être on peut le faire à Dapaon. Et après, par exemple, le séminaire, on peut maintenant prendre les journalistes là pour aller peut-être vers Pengal, demander l'assistance des militaires qui vont accompagner ces journalistes-là pour voir ce qui se passe. Et quand ils vont revenir dans leur rédaction, ils pourront relater les faits, ce qui se passe effectivement dans cette localité. Vous savez, Pascal, moi j'ai eu souvent la chance, quand je monte, de circuler un peu. Ce n'est pas souvent facile que les militaires vous permettent à certains périmètres de pouvoir avancer, mais quand vous causez avec eux, vous savez ce qui se passe réellement. Et comme il a dit, vous savez, ce n'est pas seulement une lutte pour un camp donné. C'est une lutte commune. C'est-à-dire que tous les Togolais devaient se sentir concernés par rapport à ce qui se passe au nord. Et c'est pourquoi il dit que c'était la responsabilité d'abord des élus du peuple qui devaient, par exemple, aller là-bas. Quand ils vont revenir, ils pourront sillonner les médias avec les journalistes qui les ont accompagnés, organiser des émissions, comme on le fait actuellement, deux députés, deux journalistes. Et quand ils vont commencer par sensibiliser nos populations, je crois que la mayonnaise peut prendre. Je ne dis pas que ce n'est pas bien de former les journalistes, il est bon de les former sur le langage, parce qu'il n'est pas également séant, Pascal, d'utiliser certains termes sur les médias, de ce que vous voyez, vous entendez. J'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, j'ai vu, j'ai assisté, j'ai touché du doigt ce qui se passe, et je ne peux pas me permettre, sur un micro comme ça, vous relatez ce qui se passe. C'est un peu compliqué et c'est un peu difficile. Et lorsque vous ne savez pas parler, vous risquez de tomber encore sous le coup de la loi. Donc je crois que former les journalistes par rapport à l'utilisation de ce langage-là, c'est vraiment une bonne chose. Mais je voudrais demander à l'autorité, surtout au président de l'Assemblée nationale, de prendre ce sujet-là à bras le corps, essayer de former, utiliser quelques journalistes et quelques députés, aller vers effectivement Pengal, pour que ces députés-là, ces journalistes-là, puissent toucher du doigt les réalités de ce qui se passe au niveau, effectivement, de Pengal. Et quand ils vont revenir au sein de leurs médias, ça va se faire. Donc je crois que l'organisation doit être coordonnée par le ministère de la Défense et avec les députés et les journalistes. Je crois que cela vraiment pourra aider les journalistes à voir clair et à voir les langages utiles et les langages percutants, touchants, pour pouvoir parler effectivement à nos populations.
D'accord. Disais, est-ce que vous avez aussi l'impression que, au cours de cette formation, ce qui devait être le concret n'a pas été touché?
Non, c'est vrai que notre média a été associé à cette initiative. Je n'y étais pas personnellement. J'ai dû envoyer quelqu'un, donc je ne maîtrise pas le contenu de ce qui a été fait là-bas. Mais pour en juger, effectivement. Mais ce que je sais, c'est que c'est déjà un pas de ce que les gens se sont souvenus des médias sur cette question du terrorisme. Vous savez que même quand on a évoqué le sujet le lundi dernier ici, sur la mort des citoyens togolais du fait d'une descente des groupes armés terroristes, c'est parce qu'on avait eu, on va dire, un courage indien, hein, on va dire. C'était un courage indien parce que c'était pratiquement défendu et interdit d'en parler. Voilà, mais si les gens se sont souvenus finalement et de savoir que on ne peut pas gagner une telle bataille, ou si vous voulez une telle guerre, sans associer les professionnels des médias qui doivent apporter leur touche à ce qu'on peut appeler la guerre, le volet communicationnel de la guerre, c'est déjà un pas. Maintenant, jusqu'à quel degré on veut impliquer les journalistes, les médias, pour accompagner justement les autorités et les forces de défense de sécurité aussi dans la lutte contre les groupes armés terroristes et surtout l'extrémisme violent. Donc si on veut véritablement faire dans la prévention ou dans la... Ma foi, c'est, on veut faire un peu dans la prévention, c'est de donner les moyens aux médias d'éduquer les citoyens, de parler de cette question, mais leur dire peut-être jusqu'à quel degré il faut pas aller, des limites à ne pas franchir, mais interdire systématiquement que les médias ne devraient pas traiter de ce sujet, ça va être un peu comme ramer à contre-courant de ce qu'on veut. C'est-à-dire, on veut une chose et son contraire à la fois. On ne peut pas vous demander aux professionnels de médias d'aider à lutter contre l'extrémisme violent sans parler de l'extrémisme violent. Vous voyez un peu. Donc, je veux véritablement relever cet aspect de la chose. pour que les organisateurs, dans le futur, puissent savoir quels sont les modules qu'il faut concevoir et comment est-ce qu'on peut aider les uns et les autres. L'extrémisme violent, c'est peut-être ça s'exprime de façon violente dans la région des savanes, que nous la ressentons ou que ça inquiète tout le monde. Mais l'extrémisme violent, nous la vivons des fois dans les propos des gens, des fois de certains responsables, des fois sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et les médias ont la responsabilité, par exemple, et savent mieux d'ailleurs le faire, d'éduquer les citoyens, d'aider à la formation de l'opinion publique. Sur cette question-là, par exemple, les médias peuvent faire un travail de constructivisme, si vous voulez, de l'opinion publique pour notamment aider les autorités à arriver à minimiser l'impact que peut avoir ceux qui veulent aller sur ce terrain. Mais si on veut, on nous dit de ne pas parler de ce sujet, parce qu'en parler, c'est faire la publicité au GATT. Ça veut dire que finalement, on dit aux médias de ne pas faire le travail pour lequel on les forme.
D'accord.
Ou on les outille d'ailleurs.
D'accord. Gosson, oui, mais vous avez pris part à cet atelier, à cette rencontre. Mais au-delà de cette rencontre, est-ce que vous pensez que l'État implique vraiment les médias dans cette lutte?
Bien. Ce n'est pas parce que j'y ai participé que je vais peindre tout en rose. Impossible. C'est déjà un pas qu'enfin les autorités aient reconnu qu'il fallait associer les médias. Parce que de par le passé, il n'y avait pas ça. Et pour ce qui est de la lutte à proprement parler, il se trouve que ce n'est pas une guerre entre deux pays, mais on l'appelle communément une guerre asymétrique. En ce sens que d'un côté, il y a les forces armées et de l'autre, des citoyens.
C'est pas une guerre ordinaire.
Voilà, qui ne sont pas reconnaissables, mais qui en deux temps, trois mouvements, peuvent semer la mort. Soit dit en passant, Lomé est la dernière phase parce que je crois, et on a organisé cet atelier. Je suis mal à l'aise pour en parler parce que c'est comme si je me substitue aux organisateurs.
C'est une restitution.
Ils ont organisé ça dans les autres.
Donc c'est pour cela que vous serez même habilité à nous en parler.
Un reportage, disons.
Organiser cela dans les autres régions du pays. Il y en a même eu à Dapaon. Donc Lomé et Palimé étaient la dernière étape. Donc je disais, pour ce qui est de la collaboration ou du fait que les médias en parlent ou pas, ce n'est pas pour qu'on n'en parle pas. Parce que quelques exemples nous ont été donnés pour qu'on réalise que c'est complexe et il faut nécessairement que les citoyens s'associent à la lutte. Mais encore, là c'est à titre personnel, encore faudrait-il que l'autorité fasse ce qu'il faut. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand, par exemple, on apprend que depuis les élections législatives et régionales d'avril 2024,
le 29 avril,
voilà, des manifestations qui auraient occasionné l'endommagement d'un véhicule ont amené les autorités à mettre sous les verrous quatre citoyens d'un parti politique. À ce jour, parmi ces citoyens, il y a même une femme qui a trois ou quatre enfants qui sont détenus en prison. Ne sont pas jugés. Je crois que le dossier est vide. Suppose que ces citoyens-là, qu'ils aient des frères, qui sont peut-être des éleveurs et autres. Ces citoyens peuvent être révoltés par ce que moi j'appelle du non-droit. Donc quand on veut associer les citoyens, c'est le lieu d'appeler le ministre de la Justice et ceux qui sont en lutte contre le terrorisme, qui revoient dans nos prisons ceux-là qui ont trop purgé de peine, même si ce n'est pas la peine totale. Il faut tendre la main vers tout le monde. Nous apprenons par exemple que même une vendeuse de bouillie au bord de la route renseignait les groupes armés non étatiques. Comment est-ce possible? Il a fallu qu'un militaire en civil soit en train de prendre la bouillie, et quand on a informé le camp qu'il y a eu une attaque et que les forces armées se mettaient en route, elle a juste plongé la main dans le sac, sorti le téléphone et renseigné les gens comme quoi les forces armées arrivent. Quand c'est comme ça, heureusement qu'ils ont réalisé qu'il faut quand même que ce soit et la population et les citoyens et les militaires qui fassent cette lutte. Mais je le répète encore, c'est le moment pour les autorités de revoir nos frères et sœurs qui sont dans les liens de la détention, mais qui devraient ou alors qui pourraient être élargis.
D'accord.
Ce serait aussi un pas vers les citoyens.
Ok, nous allons observer un clin d'œil au niveau alors de la technique, on revient juste après.
Point 5. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Nous parlions entre-temps alors de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, et avec cette rencontre organisée à Anéro. C'était avec Siplev et aussi le ministère de la Communication et aussi le PNUDS en partenariat avec le PNUDS. Mais nous allons quitter le sujet, Uriel. On va s'intéresser à notre sujet. On s'intéresse à l'éducation avec ce classement du Togo. Il y a l'éveil de la nation qui nous informe à travers son titre « Éducation en Afrique, le Togo classé 5e dans le top 10 des pays ayant une éducation de qualité ». Alors, quand on prend ce classement où le Togo occupe déjà 5e rang dans le top 10, alors Uriel, on pourra dire que ici la méthode Cocoroco est en train de prospérer et donne vraiment des fruits.
Non, pourquoi parler de la méthode Cocoroco? Si le secteur de l'éducation prospère, ce n'est pas la tête de Cocoroco qu'il faut voir. Il faut voir la tête de tous les Togolais, parce que Cocoroco peut être Cocoroco, mais si un parent d'élève dit « je ne veux pas ceci », Cocoroco ne pourra rien. C'est parce que tous les acteurs de l'éducation ont accepté mettre la main, mettre les idées, mettre leur intelligence, contribuer comme ils peuvent.
Il faudrait que quelqu'un soit à la tête, et c'est Cocoroco qui est là aujourd'hui.
Non, moi, quand les gens disent ça, ça m'énerve. Cocoroco seul ne peut rien faire. Pourquoi les gens disent Cocoroco? Non, il est ministre des enseignements primaires et secondaires. Dans les temps, il était ministre des enseignements primaires et secondaires et plus d'autres dimensions qui lui ont été attribuées. Mais aujourd'hui, c'est primaire et secondaire. Mais un ministre ne travaille pas à la place de son directeur de cabinet. Il ne travaille pas à la place de son secrétaire général. Il ne travaille pas à la place des directeurs régionaux de l'éducation. Il ne travaille pas à la place des inspecteurs. Il ne travaille pas à la place des enseignants. Moins encore, à la place des apprenants eux-mêmes. C'est un travail à la chaîne. Oui, il est à la tête. Quand vous dites cela, moi j'ai enseigné. Je sais ce que c'est. Beaucoup de personnes ici ont enseigné. Vous savez, quand les gens crient le nom Cocoroco, oui, Cocoroco, c'est le ministre. Mais allez-y échanger personnellement avec un inspecteur. Allez-y échanger avec un directeur régional de l'éducation. Allez-y échanger avec un conseiller pédagogique. Et vous verrez ce qu'il va vous dire. C'est ceux-là qui font le travail d'abord. C'est eux qui sont sur le terrain. Cocoroco, c'est celui qui oriente. C'est le ministre. Donc, le classement, si on peut revenir sur la question que vous avez posée, je pense que si ce classement est un classement objectif, il faut féliciter tous les Togolais. C'est tous les Togolais qui ont accepté que l'éducation de leur pays connaisse un changement positif. Parents d'élèves, enseignants, ministères, tous, c'est eux qui ont accepté et on a connu cela. Maintenant, il faudrait qu'on ait en possession les critères d'évaluation. Toi et moi, nous ne l'avons pas. Nous ne les avons pas. Les critères qui ont permis d'évaluer, et c'est ce top 10, c'est-à-dire qu'on a coopté 10 pays, et sur les 10 pays, le Togo est 5e. Et c'est en fonction de quoi? Est-ce que cela veut dire que le niveau des enseignants, le niveau des apprenants reste élevé par rapport aux autres? Est-ce à dire que c'est en fonction des résultats qu'on a à la fin de l'année? Est-ce en fonction, à la suite d'une compétition entre apprenants togolais, apprenants béninois, ghanéens, qu'on a su que le Togo a un niveau plus élevé? Il faudrait qu'on ait ces critères aussi avant de mieux s'exprimer.
Tout à fait. C'est très important. Oui. Je te comprends très parfaitement. Mais quand on parle alors d'éducation de qualité et qu'on nous classe déjà au cinquième rang dans le top 10, ça veut dire que notre éducation se porte bien.
Oui, éducation de qualité suppose un enseignement de qualité, suppose des apprenants qui acceptent apprendre. C'est d'abord l'enseignement, ça suppose la formation des enseignants, la maîtrise de leur discipline et tout, ça suppose, il y a tout ça là-dedans. C'est ça, éducation de qualité. Et le Togo ne travaille pas, ne fonctionne pas, le système éducatif togolais ne fonctionne pas en vase clos. Nous avons accepté d'être évalués avec les autres pays de la sous-région, avec les autres pays du continent, nous sommes suivis par ici, par là. Bon, si c'est en fonction de cela, tant mieux. Sinon, nous ne pouvons souhaiter que le meilleur pour notre système éducatif. Mais on vient de nous évaluer à la suite d'une année scolaire qui nous a démontré qu'on doit revoir beaucoup de choses au niveau du lycée. Vous avez vu les résultats du bac de l'année dernière. Ça veut dire que c'est sérieux, ça veut dire que c'était une bonne chose. Ça veut dire qu'avant, les résultats qu'on avait avant, bon, après nous quand même, hein, après nous. Donc, les résultats qu'on avait avant, ça veut dire qu'on a revu, ce n'était pas tellement sérieux, et ce qu'on a actuellement, c'est plus que sérieux. Si le Togo occupe le cinquième rang, alors la félicitation, il faudrait qu'on serre davantage pour que les enfants qui quittent de la terminale à l'université soient de vrais étudiants. Pour que les enfants qui quittent de la troisième en seconde soient de vrais lycéens. Pour que les enfants qui quittent du CM2 au collège soit de vrais collégiens. Comme ça, à l'université, on n'aura pas un monde pléthorique et ceux qui vont fréquenter l'université et sortir ne vont pas chômer parce que leur formation et ce qu'ils ont acquis seraient déjà adaptés au monde de l'emploi.
D'accord. J'aimerais rebondir à là où vous avez chuté. Jacques, et par rapport à ce que, à la suite même d'ailleurs de Uriel tout de suite, quand on regarde ce classement, on dirait tout simplement que tout va mieux hein, pour ce qui concerne l'éducation dans notre pays. Est-ce que déjà l'interne, l'impact même d'ailleurs de cette éducation reflète le chiffre qui a été donné?
Non, je crois que sont honnêtes pour reconnaître quand même les efforts au niveau de l'éducation quand même au Togo. Ça, il faut qu'on soit honnête. Les parents vous le diront que quand même depuis un certain temps, on a senti quand même qu'il y a l'amélioration dans le système éducatif de notre pays. Ça, il faut être reconnaissant toutes ces autorités qui sont impliquées dans ce système éducatif dans notre pays. C'est vrai que lorsque vous avez, par exemple, des gens à conduire, il faut toujours une locomotive qui conduit également les autres wagons. Et quoi qu'on dise, le ministre Kokourko a également donné sa touche à la chose. Donc, sa touche a permis à ce que tout ce que nous sommes en train de voir, assister aujourd'hui, nous sommes fiers de nos enseignants. Nous sommes fiers de nos professeurs, nous sommes fiers de nos maîtresses. Nous ne sommes pas maîtresses avec, je parle de
oui,
voilà, attention, il ne faut pas que les gens confondent pour dire que je suis en train de faire chose. Mmh. Attention. Mmh. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que ce système, au niveau de l'éducation, a permis à ce que nous puissions quand même avoir l'apaisement, Pascal. Depuis un certain temps, vous savez que à l'approche de chaque examen, on a toujours des problèmes. Mais depuis un certain temps, on a vu...
Même des grèves dans l'éducation, les manifestations.
On a vu que ça a quand même un peu diminué. Et le reste maintenant, c'est quoi moi je voulais revenir, c'est de revoir une fois encore nos curricula. Ah, il faut revenir au curricula parce que il y a certains manuels, Pascal, qui ne sont pas toujours disponibles. C'est à ce niveau-là. Nous avons des compatriotes, hein, des compatriotes qui peuvent, qui savent également écrire ces manuels. Il suffit seulement de les valoriser. Et nous n'aurons pas également ce problème-là au niveau des manuels que nos enfants utilisent aujourd'hui pour l'enseignement. Et autre chose également, vous savez, depuis un certain temps, c'est vrai, que dans certaines localités, il y a toujours des problèmes avec les bâtiments scolaires. Hein? On vous dira que pour le moment, pour construire ce genre de bâtiments, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas souvent les moyens. Le plus frappant, moi, le bâtiment ou bien le lycée qui me dérange le plus, c'est le lycée du 2 février, qui est fermé depuis un certain temps. Vous vous rappelez qu'on avait tellement parlé de ce lycée. C'est vrai que les autorités avaient dit non, qu'ils sont en train de voir des plans et autres pour revenir, pour ouvrir ce lycée. Mais le constat, ce que nous avons constaté, c'est que les bâtiments là sont encore là. Les bâtiments qu'on nous disait que ces bâtiments risquent de se crouler, mais les bâtiments sont encore debout. Je crois qu'il faudrait quand même que, à ce niveau, nos autorités puissent revoir ce cas. Mais parlant de la qualité de l'enseignement, parlant de la qualité des enseignants, des inspecteurs que nous avons aujourd'hui, il faut reconnaître que quand même, à ce niveau, quelque chose quand même a évolué. Et un ministre a apporté sa touche à la chose et nous pourrons que nous féliciter que on puisse classer notre pays à ce rang-là par rapport à l'éducation.
D'accord. Disiez, quel est ce rapport que vous mettez entre notre éducation ou notre système éducatif et ce classement qui est donné?
Bon, honnêtement, j'ai pas envie de me prononcer sur le sujet.
Tu dois.
Et pourquoi?
Pourquoi tu ne veux pas te
non, 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 j'ai mes raisons à moi, mais honnêtement, j'ai vraiment pas envie de me prononcer sur le sujet. Parce que. Mais là, puisque Muriel m'y oblige, ce que moi je dois dire, c'est est-ce que notre système éducatif est de qualité aujourd'hui? Ça dépendra de l'appréciation des uns et des autres. En tant que Togolais, ce que moi j'aspire et ce que je veux pour mon pays, c'est le meilleur en fait. Et donc à partir de ce moment-là, plutôt que de nous cantonner sur des classements, objectivement, regardons en interne, voir quelles sont les difficultés que nous avons et quels sont les défis auxquels nous sommes véritablement confrontés. Système éducatif de qualité, inclusif, d'accord, mais on va avoir encore beaucoup d'élèves togolais qui ne font pas des cours dans des salles de classe. On va avoir beaucoup d'écoles qui ne sont pas clôturées, qui présentent des risques pour des élèves. Voilà, un certain nombre de défis aujourd'hui qui restent les nôtres, qui restent les réalités que nous vivons au jour le jour. Donc, est-ce que ça vaut aujourd'hui la peine pour nous, sachant que nous venons de très loin avec ce système éducatif-là et que on est en train maintenant d'émerger ou de sortir la tête de l'eau, de laisser le reste du corps dans l'eau. Une fois qu'on a sorti la tête, de commencer par nous réjouir de classement pour courir le risque de dormir sur les lauriers, justement, puisque ça va être des lauriers, plutôt que de foncer pour que, comme la tête, tout le corps sorte complètement de l'eau. Pour que demain on dise véritablement que le Togolais sorti du système éducatif reste le meilleur. Parce que quand vous regardez la liste, ça a été la critique, ça fait l'objet de beaucoup de débats depuis hier ou depuis quelques jours déjà que cette information est dans le domaine public. On reconnaît tous qu'il y a eu des efforts qui ont été faits ces dernières années. Les uns et les autres l'ont souligné sous l'impulsion du chef de l'État, le ministre Kokoroko Locomotive, les enseignants qui ont manifesté leur volonté, Uriel le disait. Donc ça veut dire chaque acteur de la tête comme au pied a dû apporter quelque chose. Mais est-ce que honnêtement et intérieurement nous avons aujourd'hui le sentiment d'une satisfaction par rapport à notre système éducatif? Uriel a fait référence aux derniers résultats que nous avons eus de fin d'année. J'ai écouté le ministre Kokoroko lui-même à votre micro ici une fois aborder le système éducatif dans son ensemble de façon assez humble, ma foi, mais reconnaître des difficultés, des défis encore à relever. Donc pour moi, ce n'est pas tant le moment et l'heure de nous focaliser sur ce classement. Si ce classement, d'accord, c'est quelque chose, mais ne nous focalisons pas dessus parce que il y a des réalités en interne qui vont faire dire à beaucoup de Togolais ou à beaucoup de personnes le contraire. Donc, prenons ce classement plutôt comme de l'encouragement. Et si nous avons quelque chose à faire, c'est de foncer encore dans le travail que nous faisons pour que demain, notre système éducatif, indépendamment des classements, soit le meilleur possible et que le Togolais soit reconnu meilleur une fois qu'il est sorti de ce système là éducatif et que les gens ne sortent pas pour chômer, voilà, comme Uriel le disait, qu'on sente un étudiant un vrai étudiant, en un lycéen, un vrai lycéen, parce qu'il a tous les atouts, il peut, voilà, répondre à tous les critères, et ce sera notre système éducatif qui aura ce crédit-là. Et partant de là, les autorités, qu'ils soient ministres, qu'ils soient présidents de la République et, ou chefs du gouvernement, ce seront ces autorités-là qui auront le crédit de ce que demain ou après-demain, notre système éducatif va accocher toutes les cases.
D'accord. Gosson, est-ce que vous avez l'impression que nous avons autant de satisfaction en matière de l'éducation aujourd'hui, surtout de l'éducation de qualité, pour refléter même d'ailleurs ce score que nous venons de faire?
Ben, d'abord, je ne maîtrise pas trop l'espace dans lequel sur lequel a porté le classement. Puisque, comme Uriel l'a dit, voilà aussi, comme Uriel l'a dit, les résultats de l'année 2023-2024 sont ce qu'on a appris. Et ce n'était pas, à mes yeux, fameux. Par rapport au passé, où les taux de réussite étaient beaucoup plus élevés. Moi, j'ai trouvé justement bizarrement curieux que ce soit cette année où la correction, où les résultats n'ont pas atteint ce qu'on espérait, qu'on classe le Togo cinquième parmi je ne sais combien de pays ou d'établissements.
Enfin, le classement, il paraît, porte sur l'atteinte de l'ODD4, les objectifs... développement durable, ODD4, donc qui vise à offrir un système éducatif de qualité et durable, d'inclusion et tout ce que vous comprenez.
Je vois.
Donc,
ben, si c'est ODD4. Ainsi, si c'est ainsi, de par mon éducation à la maison, ce n'est pas aux autorités que je tirerai chapeau. Non.
Qui d'autre?
Non, aux apprenants, aux autres. Mon père m'enseigne toujours, quand tu es à la tête et que c'est les lauriers qui tombent, il faut disparaître pour que ces lauriers-là rejaillissent sur ceux qui te permettent d'avancer. Mais c'est quand il y a des problèmes que toi, tu te pointes pour bomber le torse et encaisser les coups. Ce n'est pas quand ça marche qu'il faut venir parader comme quoi ça marche. Non. Moi j'aurais aimé qu'on aille au-delà de ce classement, que je n'ai même pas vu, pour qu'on relève les points qui nous manquent, les points qui font que le Togo n'est pas mieux classé. Parce que là, c'est comme si on se satisfaisait de ce classement.
D'accord,
ce qui ne devrait pas être
pour
le cas.
Vous, c'est quoi les points qui nous manquent
puisque je n'ai pas le classement.
Oui, d'accord. Vous savez, il y a un petit souci. Le classement pouvait s'intéresser, par exemple, à l'investissement de l'État dans le secteur de l'éducation. D'accord.
Et ce serait plus précis.
Ça serait plus précis. Là, je serais d'accord parce que depuis un certain temps, on nous parle de la suppression des frais scolaires, on nous parle des repas chauds dans les cantines scolaires, etc. On nous parle de scolarité. Là, je sais que l'État a investi. Si c'était en termes d'investissement de l'État dans le secteur de l'éducation pour motiver l'apprentissage ou pour accroître les bons résultats à la fin de l'année, je comprendrais. Ici, on ne peut pas parler de meilleurs résultats lorsqu'on a 120 élèves dans une classe. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, nous avons de ces chiffres en classe, même à Lomé ici.
Surtout dans le public.
Dans le public. Voilà. 120 apprenants dans une même classe où l'enseignant doit s'intéresser à tous les élèves, corriger leurs copies en appliquant tous les critères de correction. En français, par exemple, il doit considérer tout ceci. Je vous assure que, pour être objectif, ce n'est pas faisable. L'enseignement ne sera pas de qualité. Ne perceront que des élèves génies. Sur ces 120, seulement les génies vont percer. Le reste, ils seront là-bas. C'est les parents qui vont constater que, ah voilà, ce nombre ne permet pas à mon élève moyen d'avancer. Ça, c'est clair. Alors, il faudrait quand même qu'un jour, pour parler d'une éducation de qualité, c'est notre rêve, c'est notre souhait pour notre pays. Ça, il n'y a rien à faire. On voudrait qu'un jour même, les États-Unis viennent apprendre du Togo. Pour qu'on dise qu'on a, par exemple, 35 ou plus 40 élèves en classe. Qui ne le souhaite pas? En ayant cet effectif de 40 ou 35 élèves en classe, cela signifie qu'on doit encore recruter d'enseignants. Parce que l'enseignant qui tient 120 élèves aujourd'hui, cette classe sera divisée peut-être par 3. Il faut encore un nombre d'enseignants. Ça suppose création de l'emploi de plus. On absorbe progressivement le nombre de chômeurs. Et c'est à l'avantage du pays. Donc tout ça, il faut qu'on remplisse ces conditions, il faut qu'on atteigne ces objectifs, il faut qu'on relève ces défis-là pour convaincre. C'est très important parce que vous et moi, nous continuons par apprendre. Nos enfants vont à l'école, nos frères vont à l'école, les enfants de nos frères vont à l'école. Et tout ça, c'est par l'école que nous sommes là où nous sommes. Si nous ratons l'éducation, notre avenir sera raté. Donc, il va falloir que nous ayons vraiment les salles de classe dignes de ce nom pour ne pas avoir 120, 130 élèves par classe.
D'accord.
Et permettre à l'enseignant de circuler librement, de corriger les copies librement, de faire passer son cours librement.
D'accord.
Pour atteindre cet objectif. Okay. D'une éducation de qualité.
Ok, merci. Alors, Jacques, je voudrais qu'on quitte le sujet. On va s'intéresser à la politique.
Non, mais ce que je voulais ajouter seulement un mot.
Rapidement.
C'est-à-dire que ne nous focalisons pas comme si l'enseignement là s'arrêtait seulement au public. Il y a le privé également qui fait des efforts.
Le confessionnel.
Voilà. Quand Uriel et Gorson dit qu'ils ne savent pas les critères, c'est vrai. Mais il ne faut pas seulement.
Non, ce n'est pas nous seulement qui ne connaissons pas les critères. Même toi, même tu
n'as
pas ces critères.
Non, moi j'ai lu. Je connais,
les
j'ai
critères
lu,
là.
Oui. C'est-à-dire que nous ne nous focalisons pas seulement comme si c'est le privé. Ils ont pris en compte le public également. Et puis quand vous voyez ce que le public, le privé fait, mais vous êtes ébahi.
Oui.
Hein? Vous êtes ébahi de ce que le privé fait.
Sans le public, voilà. Le privé.
Non, c'est pour vous dire que c'est un complément, quoi. C'est-à-dire que ça se complète.
D'accord.
Donc je crois que il y a pas à dire que.
Mais ça ne supprime pas les insuffisances.
Je suis d'accord avec toi. Et l'autre aspect, je voulais rebondir sur ce que Didier disait tout à l'heure. Je ne pense pas que. C'est le système éducatif qui fait que nous avons beaucoup de chômeurs. C'est pas si on, ça dit qu'on forme et on n'a pas de boulot. Non, ça dépend des orientations. On l'a dit, vous vous rappelez celui que vous avez invité.
Tout à fait.
Voilà, ici. Donc je crois que c'est des choses quand même qu'il faut séparer. Il y en a qui ont été à l'école, qui ont réussi. Ils ont des diplômes. L'autre a dit la fois passée, ça dépend de comment on oriente l'enfant.
Tout à fait.
Si on oriente bien l'enfant, l'enfant réussit. Moi, je crois que, parlant de l'éducation et l'emploi et l'auto-emploi, je crois qu'il faut parler plutôt de l'orientation que les parents font, effectivement, de ce que l'avenir réserve à leur enfant.
D'accord. Voilà. On va quitter le sujet de l'éducation, on s'intéresse à la politique. La politique, depuis un moment, c'est cette proposition du CAR qui cristallise l'actualité. Je veux bien parler alors de cette proposition de cogestion au niveau alors de la gouvernance. Et j'écoutais même d'ailleurs le président du CAR, Monsieur Daté, hier sur une radio de la place qui est revenu en long et en large alors sur cette proposition. Alors, quand on écoute cette proposition aujourd'hui, oui, on pourra dire même d'ailleurs que c'était une proposition même d'ailleurs du feu président Agbeyibo, Yahya Agbeyibo, qui est ravivé aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est possible d'aller vers cette cogestion aujourd'hui, disait
Je veux dire que Agbeyibo, du haut de son aura, et de ses stratégies, de tout ce qu'il pouvait apporter et de son poids qu'il pouvait peser sur la vie politique nationale a proposé cette affaire de co-gestion. Je me souviens avoir couvert cette conférence de presse qu'il avait donnée en 2010 à l'hôtel Ibis, où il proposait justement, Ibis à l'époque et maintenant l'hôtel Le Bénin, c'est ça? Voilà. Où il proposait justement ce concept de co-gestion. Mais on se demande de son vivant, est-ce que cette proposition a trouvé un écho favorable d'abord, on va dire, dans sa famille ou dans son camp politique, je veux parler de l'opposition, jusqu'à essayer peut-être d'entrer dans l'oreille du pouvoir. Donc, si je me dis ici, Agbebo, quoi, voilà, du haut de sa trempe, de personnalité qu'il était, n'a pas su convaincre les gens, d'abord de l'opposition, puis les tenants du pouvoir, à accepter que être opposant, c'est pas un crime de lèse-majesté, mais c'est juste une façon de voir autrement une même réalité que les tenants du pouvoir voient, et pour que au final le développement du pays soit holistique, et donc qu'on puisse laisser quelques pans, je veux dire, du pays à des personnalités de l'opposition de gérer, pour permettre au pays d'avancer. S'il n'a pas pu le faire, est-ce que actuellement le CAR, dans sa situation actuelle, qui fait même railler des fois des amis du pouvoir, est-ce que le CAR là, avec un monsieur Daté qui n'a pas encore lui-même réussi à solder les questions de dissension au niveau du CAR, est-ce que ce CAR là a aujourd'hui le carburant nécessaire pour pouvoir convaincre ses amis de l'opposition, puis le pouvoir togolais actuel, qui se sent encore plus fort, alors là très fort, avec 108 députés, je crois, à l'Assemblée nationale actuellement. Est-ce que ce pouvoir-là, vous pensez, est aujourd'hui en mesure ou dans une posture de vouloir co-gérer quelque chose avec quelqu'un? Je ne crois pas, moi, fondamentalement. Mais bon, nous sommes sur un terrain politique. Peut-être que moi, mon scepticisme, ça n'engage que moi, et que demain je peux être démenti par peut-être de nouvelles résolutions, de nouvelles décisions de la part du pouvoir togolais, qui peut, on ne sait jamais, appeler les amis du CAR pour dire: ah, vous proposez de co-gérer le pays avec nous, venez, on va attendre de voir.
D'accord. Oui, mais Gosson, oui. Le slogan alors de unir, hein, c'est bien, quand on gagne, on gouverne. Alors, si tant est que le slogan est ainsi, est-ce que vous pensez que c'est utopiste, hein, utopique, j'allais dire, utopique, cette proposition du CAR?
J'aurais aimé que M. Daté était devant toi, que ce soit à lui que tu poses cette question, soit dit en passant. Didier parlait tout à l'heure de scepticisme. Moi, je dirais plutôt réalisme. Par rapport au slogan d'unir.
Non, c'est la fin du slogan. Hein. C'est pas tout qu'il a cité.
Ah,
c'est
d'accord.
C'est une partie.
Ouais. OK, ben, ce que je veux dire, bon, que
la
quoi?
La fin paraît être la conclusion.
Quand on parle de co-gestion, cette trouvaille-là que certains ne veulent pas laisser tomber, doit-on comprendre que quand on ira aux élections législatives, que ce soit encore la co-gestion qui règne, quand ce sera les régionales, on va co-gérer. Quand ce sera pour aller choisir les maires, on co-gère pour choisir les ministres. Ce sera la co-gestion. C'est quoi cette... Passons à autre chose. Si tu es tenté d'approcher un parti ou alors une autorité pour que, bon, une suite favorable te soit réservée, fais-le. Mais il faut arrêter de saouler tout le monde avec ce machin de co-gestion. Pour aller où? C'est quoi la finalité, la co-gestion? C'est quoi la finalité actuellement?
Je sais
par exemple que dans certaines mairies, c'est des citoyens d'un autre bord qui gèrent les affaires communales. Le pays, est-ce qu'on leur reproche des choses ou alors ils font ce qu'ils ont à faire? quand il parle de cogestion, ce serait aussi à la CENI. Bon, bref, nous avons d'autres choses à faire que de ressasser à longueur de journée.
D'accord. Udel, est-ce que déjà là, c'est l'impression que nous devons avoir, c'est que déjà le CAR se voit dans l'incapacité même d'ailleurs d'accéder au pouvoir, et finalement on fait cette proposition.
Accéder à quel pouvoir?
Quand on parle d'un parti politique, le but, c'est d'accéder au pouvoir.
C'est de mener ses activités d'abord. L'écart n'a qu'à réussir à continuer ce que le fondateur même du parti, de ce parti, faisait. Aujourd'hui, le constat, il est clair. Tous les pionniers des grands partis de l'opposition qui ne sont plus... Mais c'est de la catastrophe. C'est de la catastrophe. Moi, j'aurais même proposé à l'opposition de créer de nouveaux partis. C'est ça, non? On dit non? De nouveaux partis politiques pour continuer la lutte, que de continuer au nom des partis d'Aboivo, par exemple, de Mensah, Gabriel Agbemé Kodjo. Mais Jules Christ, mon frère, c'est très compliqué. Je ne sais pas s'ils vont honorer vraiment la mémoire de ceci. Est-ce que ce n'était pas mieux qu'ils créent leur propre parti pour continuer et de laisser cela dormir tranquillement? Ben, je ne vois pas vraiment des gens qui parlent de la cogestion aujourd'hui. C'est compliqué. Si vraiment on est dévoué, on est décidé, on a cette capacité, ça va se sentir. On ne va même pas parler de la cogestion. Personne ne va prononcer ce concept. Ça veut dire qu'il y a déjà problème. Mais le monsieur de l'autre côté ne sera pas content, hein, parce qu'il n'a jamais parlé de la cogestion, à moins que je me trompe. Il a joué son rôle, il a été vraiment une tête, un grand intellectuel. Mais aujourd'hui, ceux qui ont pris la relève, vraiment, c'est du cafouillage, c'est du grand cafouillage.
D'accord. Jacques, quand on parle de cogestion, alors, le concept, c'est vrai que ça ne semble pas nouveau. Parce que, on sait qu'en 2007, le feu président Yaouvia Bouibo était même d'ailleurs Premier ministre. Mais aujourd'hui, quand on propose une cogestion, ça n'a pas marché de par le passé.
Vous savez, Pascal, lorsque on construit une route, il n'y a pas les frais tricolores, il n'y a pas les dodanes. Cette route-là, il faut faire très attention de l'emprunter.
En ville.
Très, très, il faut faire attention. Je voulais dire quoi? Dans un pays, si vous n'avez pas une opposition, vous, en tant que gouvernant, vous aurez des problèmes.
Vous estimez qu'il n'y a pas d'opposition?
Non, mais s'il y avait d'opposition, on n'allait pas assister à tout ce que nous sommes en train de voir. Parce que ce que le CAR propose aujourd'hui, c'est comme un cri de détresse.
Et justement.
Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme un cri de détresse. C'est-à-dire que nous sommes fatigués. Nous voulons maintenant co-gérer le pays avec vous. Permettez-nous de le faire. Mais quelqu'un l'a dit tout à l'heure. On est allé aux élections. On a gagné. On gère, c'est ça?
On gouverne.
On gouverne. Et quand on gouverne, on jouit. Ou bien, on jouit du fruit de cette gouvernance. Au fait, le vrai problème aujourd'hui, c'est ça. Comment partager également le peuple avec les autres? C'est ce qu'il faut voir. Ça, il faut laisser d'abord la dimension politique de ce que nous sommes en train de vivre dans le pays aujourd'hui. Vous voyez que c'est un peu dur pour tout le monde. Partout, les gens crient que ça ne va pas. Les gens ne vendent pas. Les gens, les affaires ne prospèrent plus. Qu'est-ce qui a bloqué tout ça là? À un moment donné, il faut qu'on réfléchisse. Qu'est-ce qui ne va pas? Et puis les choses ne prospèrent pas, comme avant. D'un seul coup, qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Et les choses, d'un seul coup, sont bloquées. C'est ça le problème. Donc, au-delà de la co-gestion, au-delà que, on a gagné, on gère, il faut revenir aux fondamentaux. Le vrai problème est là.
On a gagné.
Hein? Le vrai problème est là, Pascal. Nous avons des problèmes de survie. Donc, il faudrait voir également ce problème. Non, moi, je serais à la place, par exemple, du CAR. La proposition, d'abord, c'est de voir quelle survie doit-on donner, par exemple. Quelles sont les ouvertures? qu'on peut donner aux Togolais pour leur survie. Après, on peut parler de politique.
D'accord. Ok, non, on va quitter enfin, le débat, parce que il y a le temps qui est totalement avancé. Nous allons arrêter hein, le débat ici et donner aussi la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat. Et donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après. 93.5 Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur en ligne. Allô.
Allô, bonjour Canal FM.
Bonjour Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
D'accord, allez-y.
Oui, je viens ici remercier les journalistes qui interviennent sur le plateau du Club de la Presse. Les classements, mais j'aimerais quand même féliciter le ministre Kokoko. Pourquoi? Parce qu'il se bat quand même, comme le président Zelensky de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il est actif. Il fait des efforts pour améliorer. Il fait sortir des notes et donne des explications. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nesto, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Allô? Allô, bonjour.
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Oui, papa Sibiti.
Bonjour, tout le plateau.
Bonjour.
Vous savez, même si vous êtes contre, sachez que le lièvre court. Le ministre Kourkourko, c'est lui qui imprime sa marque. Le peuple, il est là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il a décrété congé de détente. Qui a-tu dire non? Les gens ont boudé, mais c'est le ministre. C'est la tête qui décide. Vous connaissez-le? Quelqu'un vient de dire qu'il a échoué. Avant lui, c'est des grèves, c'est quoi. Il a tout maîtrisé. Reconnaissez-le. Moi, je le lui reconnais parce que je suis pédagogue. En France, la loi Jules Ferry, vous la connaissez. Deuxièmement, je passe à la co-gestion. Les élections définissent celui qui va diriger le pays, si c'est législatif ou présidentiel. Alors, pourquoi gérer? Quand vous allez et vous avez gagné, c'est vous qui gérez le pays. Si ça ne va pas, tout est porté sur votre tête. Donc, je prie les gens, il faut que nous sentions les questions de co-gestion, gérer, la culte, les progressistes sont restés. Olympio, il gagne, personne, il gagne les élections, c'est lui qui dirige. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous aussi, Papa Sibiti, pour votre intervention au Club de la Presse. Allô?
Bonjour, pasteur.
Bonjour, comment vous allez, Basile?
Oui.
Ça va?
Je les vois, comme vous le savez. Hein.
D'accord.
Bon, mais coût de gestion, ce n'est pas ça le problème. Le problème pour le Togolais aujourd'hui, c'est qu'on va aller tout gérer avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on est un aveu d'impuissance. Le plus fort s'empare du pays, on ne peut plus faire quelque chose et il faut qu'on négocie pour aller gérer avec lui. C'est ce que ça veut dire, hein? C'est ce que ça veut dire. Alors que c'est très simple de chercher par tous les moyens pour que le moyen d'accéder à la tête de l'État soit clair et puis tout est fini. On dit que là, un Togolais ne vote pas le parti qui nous gouverne parce qu'il mène la vie dure. Qui va aller voter celui qui va te mener la vie dure? Bon, dites-le moi, de vous à moi, qui va voter celui qui va te mener la vie dure? Quand tu ne veux pas et tu veux respecter, on va envoyer les gens te taper, te crier. Qui va voter ça? Mais c'est de ça que nous parlons. On ne veut pas co-gérer un pays et le pays va se développer. Ça veut dire que les gens à la tête vont se partager vos efforts et puis vous êtes là, vous les regardez. Hein? C'est de ça qu'il s'est dit. Co-gestion. Voilà les gens de cas. C'est eux qui ont amené ce problème. Nous sommes aujourd'hui, on se retrouve à 100 combien de députés là, alors que ce petit pays. On a besoin pour une efficacité de gestion de notre pays, on a besoin de plus de 41 députés. Quand tu as mené tout à fait de 117 députés,
non, c'est 113.
Ils ont déjà apporté de l'eau au moulin de ceux-là qui ne font souffrir dans le pays. Mais je ne vais pas monopoliser. D'accord. Si je veux continuer, les autres vont se fâcher.
D'accord, merci. Merci beaucoup, Basile. C'est 113 plutôt, hein, 113 députés. Et il y a plutôt 117 communes. Allô?
Oui, bonjour.
Et bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est M. Mahoto.
Oui, M. Mahoto, allez-y.
Oui, salut le plateau. Bon, moi je voudrais demander à tous les journalistes, avant de nous informer sur les classements du Togo, là, aller chercher les critères sur lesquels on se bat pour classer le Togo. Comme ça, on saura comment juger. Bon, d'emblée, moi, je ne sais pas, dans ce classement-là, le Togo est-il dans les 5 tops-là? Avec quelle indication? Depuis fort longtemps, nous sommes tous dans la formation classique. Qui ne font que les chômeurs. Vous racontez vos petits-pères, vos enfants dans la rue. Ils attendent d'abord que vous-même vous leur parlez d'abord. Ils ne vous disent rien. Même à 7 heures, les enfants, les collégiens sont encore dans la rue. Et on parle de cette façon-là dans les 5 tops. Moi, je ne me connais pas. C'est qu'on se fait beaucoup de mouilles. Surtout, on se place que le Togo est le rassurant. Nous vivons pour le contraire dans le pays. Merci, bonne émission.
Merci à vous aussi pour votre intervention au Club de la Presse 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
Oui, Nyamavo.
Allez-y.
Oui, pourquoi les gens s'inquiètent du classement? Le ministre est venu, il n'a pas encore fait 5 ans, je crois. Les anciens qu'on a renvoyés par ici, par là, ça s'allume, quoi. Donc, l'école a commencé, les gens qui sont meilleurs aujourd'hui à l'international, leur CP1, ça date de Mathusalem. C'est de quelle qualité on parle? Vous me dites que vous ne connaissez pas les critères. Sinon, le Togolais est excellent, le Togolais se débrouille. Même au dépotoir, il fait mieux. Il fait son mieux. Et concernant Yao Daté, je félicite Bouyboin, il ne fait pas cette déclaration-là. Il maintient sa politique de venir au pouvoir. C'est le pouvoir qui va négocier avec lui qu'on a des problèmes. Mais si Yao Daté dit que bon, ok, la population nous a lâchés parce qu'on ne sort plus pour voter, parce que dans ce pays, on dit la dernière fois, j'écoutais le ministre dire que bon, ok, l'opposition n'a pas. Sur sécurisé. Donc, les forces du désordre sont rentrées. Les forces de l'ordre républicain, vu les dangers, ne peuvent pas intervenir. C'est dommage. C'est devant cette situation que la population a démissionné. Donc, si les partis politiques veulent démissionner, ils n'ont qu'à aller se fondre à unir. C'est fini. Co-gestion, bon, on ne comprend pas. Hein. Quand il y aura élection, il va aller co-gérer pendant la campagne ou bien comment? Donc, on ne comprend plus rien dans ce pays-là. Mais seulement, un jour, on dit qu'on recule pour mieux sauter. Les Togolais qui ont abdiqué, ils ne vont plus aux élections. Un jour viendra, quand ils vont sortir, les gens vont ramasser la fumée aussi.
Merci, M. Nyamavo. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte lors de cette émission. Allô?
Oui, donc, je clôture en vous disant que...
C'est Basile.
C'est Basile qui revient comme ça.
D'accord, allez-y.
Quand on parle des classements, ces classements classent toujours, désignent toujours plutôt notre pays dans de meilleures conditions, c'est-à-dire à de meilleures places. Bah, il faut savoir que quelque chose est encore passé. Le peuple va encore en souffrir. C'est beaucoup qui sont encore partis dans l'air comme ça. Le Togo ne fait pas quelque chose à cette population pour mériter des places qu'on lui donne. Ils savent comment il faut obtenir ces places-là. Mais jusque là, le citoyen lambda va continuer par courir dans la misère indescriptible jamais vue au monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu ne peux rien dire, parce que mais tu es obligé de supporter ça.
D'accord. On vit comme ça dans quel pays.
Okay, ok, merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce lundi. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Mais je voudrais que, alors, sur le sujet hein, de dernier tour de table, que ça soit la politique aux États-Unis, puisque nous savons que l'actualité dans le monde est dominée aujourd'hui par cette politique, surtout l'élection présidentielle aux États-Unis avec l'ancien président Donald Trump et aussi la vice-présidente Kamala Harris. Alors, Ulette, comment vous trouvez l'actualité aux États-Unis?
Pascal, mais je ne te comprends pas. Comment tu souhaites qu'on parle de cette élection à cette heure où il nous reste
Juste, on va revenir là-dessus, puisque donc, c'est demain, on va revenir là-dessus demain, bien sûr.
De toutes les façons, vous savez, les États-Unis, c'est la démocratie, c'est la grande démocratie. Ce n'est même pas la simple démocratie, c'est la haute démocratie. Vous avez vu les campagnes, tout ce qui se passe à quelques minutes de la fin aujourd'hui.
Campagne dominée par cette tentative alors d'agression.
Non, il ne faut même pas rentrer là-dessus. Ça, il faut lorsqu'on assassine des gens là-bas, des autres, des noirs, qu'on met ce qu'on met, tout ce qu'on veut, on n'en parle pas. Donc, intéressons-nous à leur élection. Que la dame gagne l'élection, ça serait une première fois. Si Trump revient, vraiment, ça serait... Moi, je suis en train de voir comment il serait protégé par cette même force hein, qui le persécute chaque jour. C'est vraiment la première fois qu'on vit une pareille élection. Mais si tu demandes mon vœu de voir qui va gagner, c'est que c'est Kamala Harris. C'est mon souhait.
D'accord, voilà. C'est votre souhait. Oui, Jacques?
Non, c'est une élection aux États-Unis, mais... Ce que nous constatons, c'est que tout le monde entier retient son souffle par rapport à ces élections. Et si c'est l'étranger qui allait voter, Trump ne passerait pas. Mais comme c'est les Américains qui votent, mon souhait, c'est que le meilleur gagne. Et puis, ça serait le bonheur des États-Unis. Et surtout que la paix revienne dans le monde. Il y a trop d'atrocités, il y a trop de guerres. Il faudrait que celui qui va gagner, que cette personne-là puisse temporiser un peu ce que nous sommes en train de vivre comme guerre, massacre un peu partout dans le monde.
Arrêtez de vendre les armes à Israël.
Mais la question qui se pose, c'est de savoir est-ce que les États-Unis sont déjà prêts aujourd'hui pour recevoir une dame comme présidente de la République.
Non, ça c'est leur problème à eux. Nous avons nos problèmes à nous ici aussi. Vous avez quelqu'un parler de co-gestion, vous voyez comment les gens appelaient pour lui rentrer dedans. Ça, nous avons également nos problèmes liés à la politique, à la démocratie. Mais les États-Unis, c'est une démocratie presque aboutie. Et ils savent ce qu'ils veulent faire là-bas. Si les citoyens américains pensent être prêts pour se donner une femme présidente, ils ne vont pas s'en priver. Et ils ont d'ailleurs l'occasion d'aller aux urnes pour faire cette élection-là. Et on verra justement, à l'issue des résultats, qui, entre M. Donald Trump et la dame Kamala Harris,
la procureure,
qui a gagné les élections. Et nous, on constatera que ce soit Trump ou que ce soit Harris, je veux vous assurer que rien ne changera dans la politique internationale des États-Unis. Les États-Unis ne vont pas nous donner du riz ici. Ils vont pas le riz que n'aime pas Uriel Nyang, parce qu'une société déverse chez lui là-bas. Donc, les États-Unis vont pas nous donner du riz, ils vont pas nous donner du maïs, alors que le maïs est cher pour le Togolais ici. Donc, pensons également à nous, comment est-ce qu'on peut emboîter le pas au développement des États-Unis, tant sur le plan politique que sur le plan de développement socio-économique.
Oui, mais Gosson?
Oui.
Votre notes, analyse?
La note. Uriel parlait de grande démocratie en citant les États-Unis. Jamal Khashoggi, qui avait été démembré. On a vu Joe Biden promettre tout pour sanctionner l'Arabie Saoudite. Mais à la fin, il a serré la main au premier suspect.
C'était avant lui.
avant qui lui?
Joe Biden.
Joe Biden a sorti des propos à propos de ce monsieur-là. Mmh. Mais on a vu comment c'est terminé en Ukraine. C'est Trump qui crie que à son arrivée au pouvoir, il sait comment arrêter la guerre. Aux États, en Israël, c'est Kamala Harris qui va dans le même sens que Trump. Leur politique, c'est fournir des armes et encore des armes à Israël. Finalement, je me dis, pourquoi ces États-Unis existent même?
C'est pour promouvoir la guerre à travers le monde.
Alors, nous sommes à la fin, chers confrères, nous sommes à la fin de cette émission. Puisque, Uriel, merci à toi d'être passé dans cette émission, Jacques Djakouti.
Merci
à toi d'être passé aussi dans cette émission. Et merci, Didier Assouba, d'être passé dans cette émission. Gosson Ketomagnan, merci d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés. Grand merci à vous, puisque vous avez enrichi ce débat lors de votre réflexion. Et tout ce que vous avez dit en participant à cette émission. Merci à Michel Tobega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.